Les nouveaux sauvages. Une émission présentée par Marie Laloum.
Qu'est-ce qu'être? Qu'est-ce que devenir? Je pense que ça peut définir le chemin sur lequel je me trouve. Et plus que répondre à la question de ce que je suis, je préfère, enfin, je ressens plus l'idée de chemin, quoi. Je suis sur un chemin. Qu'est-ce que je suis? Je suis un être sur ce chemin de devenir.
Kurmil Yanke, poète et auteur du livre Enfant sauvage.
Bah, je viens, comme tout le monde, au plus proche du ventre de ma mère. Et après, je dis ça parce que j'ai souvent, depuis quelques années, couru après la masculinité. Je suis allé à la recherche de mon grand-père bolivien. Je suis toujours sur les chemins de mon père, qui lui aussi est bolivien. Et je me suis rendu compte, à force d'aller vers eux et de les chercher eux, que j'avais aussi, et tout autant, en fait, des origines féminines, maternelles, etc. Donc, d'où je viens, oui, mon père vient de Bolivie, ma mère vient de Bretagne, et ses origines, même si j'en tire pas particulièrement de fierté, parce que personne, pour moi, n'est en position de tirer fierté de ses origines, en tout cas, je les malaxe, je les travaille, et j'essaye d'aller vers elles pour comprendre, parce que là était le chemin passé, encore une fois, l'idée de chemin, quoi. Mon enfance, je l'ai passée à Paris. L'école a été compliquée pour moi. Et quand j'en suis sorti, pourtant, j'en ai eu la nostalgie toute ma vie. Donc, est-ce que j'y étais heureux ou pas? Est-ce que les choses étaient belles ou moches? Est-ce que j'étais un enfant joyeux ou triste? Cette mémoire, elle est déformée et je m'en suis rendu compte aussi parce que depuis quelques temps, je suis allé à la recherche justement de cette enfance et de mes anciens camarades d'école. Et je leur ai parlé de mes tourments, parce que j'ai été un être tourmenté, depuis toujours. À 10 ans, je pensais avoir raté ma vie, à 20 ans aussi, à 30 ans, j'ai toujours pensé avoir raté ma vie. Pourquoi? Je pense que c'est une question d'estime de soi. On réussit sa vie quand on s'aime, et on la rate quand on ne s'aime pas, quoi. Et chacun doit se poser cette question, bon, là, est-ce que je m'aime vraiment en tant... dans ce que je suis, dans ce que je fais, est-ce que je suis en accord avec moi, est-ce que quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un de laid ou de beau, et quelle que soit l'apparence physique, et quelle que soit ce qu'on a à l'intérieur de soi, ou ce qu'on a vécu de dur, c'est la question qui se pose à tout être, je pense. Et moi, cette question, sans me la poser, j'avais une réponse, je ne m'aimais pas, mais pourtant je ne m'étais pas posé la question de pourquoi. Donc le pourquoi, il est là, c'est le chemin. Pourquoi est-ce que j'étais dans cet état-là? Pourquoi ça n'allait pas et ça m'empêchait de vivre et de vraiment faire des choses qui me semblaient bien, quoi. Je pensais n'avoir rien fait de bien, à part peut-être ma fille. Voilà, la naissance de ma fille, c'était une sorte de quelque chose comme ça que, quand je l'ai vue apparaître, je me suis effondré. Parce que j'ai vu un être, j'ai vu quelque chose de beau qui venait de moi, quoi. Et qui m'a dit, bah voilà, tu peux aussi faire des belles choses, mais les faire aussi par toi-même, parce qu'elle s'est faite aussi toute seule. Elle, c'est un être indépendant, un être autonome, comme d'ailleurs un peu, enfin voilà, je vais faire une comparaison un peu bizarre, mais ça me vient tout de suite à l'esprit, là, comme ça, ce livre-là que je viens de faire, c'est pareil, c'est un être qui, aujourd'hui, va être autonome, va faire sa vie, que j'essaie d'accompagner dans sa naissance, avec amour, voilà, comme j'ai pu le faire, justement, avec ma fille, et comme j'ai pas réussi à le faire avec moi. Moi, après ma naissance, je pense que j'ai eu du mal à m'accompagner. Et pourquoi? Je ne sais pas. C'est aussi un accord peut-être ou un désaccord avec l'endroit où on se trouve, l'endroit où on évolue. Je pense que j'ai quand même toujours été en résistance avec l'endroit et la société dans laquelle j'étais, quoi, et ce qu'elle voulait nous faire de nous.
Oh, yo, hey.
Vibre dans mon cœur, chemin de solitude, dans les lavandes bleues, dansent les papillons. Dans le nectar du jour, trouve la plénitude, enveloppé du chant généreux des grillons. Vibre dans mon cœur, la lumière de ces nuits, ou allongée dans les herbes, revenue à la lune, et son reflet doré sur l'étang de la vie, une flaque, une mer, lacune, lagune, lacune, lagune. Hey, 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 hey. Vivre dans mon cœur, grand Milan dans le ciel, qui de ses ailes noires survolait mes pensées, à l'ombre langoureuse de mon arbre-chapelle, un vieux chêne centenaire aux branches insensées. Vivre dans mon cœur, grébu paix malicieux, insouciant vagabond des mondes invisibles, qu'il me prêtait le temps d'une plongée ses yeux, voyage sans retour, bonheur irréversible, vibre, 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 hey, 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 hey. Vibre dans mon cœur, village de la montagne, place aux points levés et les pieds dans la terre. Je reviendrai rêver en pays de cocagne, écoutez vos langages, regardez et me taire. Vibre dans mon cœur, chemin de solitude, où frappe le soleil, un jour la pluie viendra. C'est peut-être en l'instant ma seule certitude, où que tombe la pluie, quelque chose poussera. Où que tombe la pluie, quelque chose poussera. Où que tombe la pluie, quelque chose poussera. Où que tombe la pluie, quelque chose poussera.
Et mon chemin, moi j'ai 43 ans, donc ça commence à être long maintenant à raconter. Enfin, si j'avais besoin de le raconter, oui, ça prendrait du temps. Surtout qu'à chaque étape, je pense que j'ai essayé d'y poser ma conscience, et de plus en plus. Alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça en inconscience. Et je pense que je suis arrivé ici, dans le sud, et au fin fond de la campagne aussi, dans une sorte d'état d'inconscience. J'ai fait des choix qui n'en étaient pas vraiment, me laisser porter par une forme de courant extérieur. Et d'une certaine manière, j'ai accepté que les choses me brinquebalent, parce que moi, j'étais incapable de prendre mes propres décisions. Et souvent, c'est dans les valises d'autres personnes que j'ai circulé. De Paris, je suis parti dans les valises d'une femme pour vivre en Bretagne. Après, en Bretagne, j'ai quitté la Bretagne dans les valises d'une autre femme. Et quelque part, ce sont d'autres personnes qui m'ont trimballé dans leur bagage. Et surtout, ce chemin-là, j'ai récolté des graines de vie que je pensais être des pierres. J'avais l'impression de porter un fardeau de pierre, etc. Et au final, je me rends compte maintenant que j'accepte mon chemin, que j'accepte mon passé et que j'aime mon présent et que je rêve dans mon futur, que toutes ces petites pierres, même de malheur parfois, sont des graines et que notre passé, quel qu'il soit, en fait, est rempli de plein de petites graines qu'on peut arroser, qu'on peut faire germer et transformer en quelque chose de beau, quoi. Donc ces pierres-là ne sont pas des pierres. Ouais. Alors pourquoi est-ce que je suis arrivé dans le sud? Moi, je me suis éloigné. Je me rends compte aujourd'hui que je pose ma conscience dessus, que je me suis éloigné alors que je venais de Paris, de plus en plus de la ville. J'étais dans la grande ville de Paris, après ville de Rennes, après encore une petite ville de Lorient, après la campagne brestoise, après la campagne lorraine, après le fin fond de la campagne méridionale. Bon, là, je reviens en ville, en fait, pour la première fois depuis 20 ans, quoi, à Lodève. Et c'est encore une toute petite ville. Mais pourquoi est-ce que je suis parti comme ça au fin fond? Je pense que j'avais des déserts à explorer et la nature à rencontrer. Parce que cette nature-là, elle m'a toujours parlé, même à Paris, dans les parcs. Enfin, je cherchais toujours des petits lieux comme ça, inconsciemment encore. Mais la recherche de la nature, qui aujourd'hui m'accompagne vraiment très puissamment dans mon quotidien et dans la manière dont je me construis, quoi. Et que j'essaye de faire vivre par les mots aussi dans le livre.
Alors justement, quel est ton rêve? Qual est ton sueño?
C'est un rêve vision, un peu, que j'ai, en tout cas, qui m'a animé depuis 4 ans, qui était de retourner, que j'ai réalisé en partie, qui était de retourner dans la cour d'école où j'avais grandi et où j'ai pris conscience un jour que je m'étais abandonné. Après la naissance de ma fille, j'ai pris conscience de ça. Dans des sortes de visions comme ça, sur lesquelles enfin j'avais pu poser ma conscience, alors que je voyais toujours, depuis toujours, cet enfant tourner autour de moi à me dire quelque chose que je n'entendais pas, j'ai compris qu'il me disait « viens me chercher ». Viens me chercher et me dire que tu m'aimes et me remettre dans ton corps parce que tous les deux, enfin moi je suis coincé dans ma cour et puis toi tu es là dans la vie à faire n'importe quoi, tous les deux réunis on va y arriver. Ça a été un premier vrai rêve pour moi. Mais c'est un rêve, c'est pas grandiloquent, c'est pas quelque chose, mais c'est le rêve de retrouvailles, quoi, un rêve de retrouvailles, de rencontre avec l'enfant que j'avais été. Et je me suis mis en mouvement vers cette vision et à partir de là... Ma vie est devenue en elle-même un rêve, en fait. C'est comme si ce rêve, même si je n'arrivais pas à l'accomplir, en fait, et même si je ne l'avais pas encore accompli, était déjà, en fait, en train de m'apporter du bonheur. Et sur le chemin du rêve, on a déjà le bonheur, normalement. Enfin, c'est l'impression que j'ai. À partir du moment où on a un rêve, on trouve le bonheur sur le chemin. Parce qu'on a, on a trouvé un sens, quelque part, à son existence, même pour une période temporaire, quoi. Et il y a peu de temps, je suis enfin retourné dans cette école et j'ai enfin remis cet enfant dans mon corps. Et j'ai écouté derrière ce qui se passait, même si j'avais déjà pressenti que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Maintenant, mon rêve, c'est de trouver une plume d'or que je ramènerai en Bolivie, sur les hautes terres des Andes, au grand condor qui est venu me parler il y a 4 ans, au milieu d'une nuit d'insomnie, quoi. Et c'est ce grand condor coloré, en fait, qui m'avait dit « va retrouver l'enfant que tu as été, va le remettre dans ton corps et ensuite, maintenant, trouver une plume d'or ensemble et ramener-la là-bas sur les hautes terres des Andes. » Mais le rêve, du coup, ça serait ça maintenant, de retourner là-bas avec l'enfant que j'avais été. J'y suis allé avec le seul adulte que je suis, qui n'était pas vraiment un adulte, un non-être pour moi. J'étais un adulte dans un état de non-être.
Quand tu dis non-être, c'est un être qui n'a pas conscience en fait de lui-même ou c'est un être qui n'est pas connecté à son enfant intérieur? À quoi tu fais allusion?
Un être qui ne ressent pas assez ce qui se passe autour de lui et en lui. Et je ne ressentais pas assez, je pense, pour avoir quelque part l'amour de la vie. Être, c'est avoir l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour autour de soi. J'avais pas assez d'amour en moi pour être, voilà, pour ressentir et donner, offrir, ressentir, recevoir, donner, être dans un échange comme ça perpétuel avec la vie. Pour moi, c'est ça, être, quoi.
Thank you. Kourmilyanke, poète, réalisateur et artiste dans l'âme.
Bah, le projet de Tim Kuna, de rencontre, il est né en même temps que cette quête dans laquelle je me suis lancé, et qui était aussi une quête filmographique. Le rêve passe aussi par le film, initialement. Aujourd'hui, quand je suis retourné là, dans cette école, je l'ai filmé, j'ai filmé ce moment, comme je filme beaucoup de moments depuis ce jour-là, dans l'idée d'en faire un film. Et le projet Tim Kuna est né en même temps que cette idée de quête et de film. Et maintenant, ça chemine aussi tout seul, c'est comme un arbre avec des branches qui se déploient. Et à partir du moment où j'ai commencé à filmer mon chemin et à parler aussi à la caméra, il y a des mots qui sont venus. Et je me suis rendu compte que ça faisait partie de moi et de ce que j'étais capable de faire, écrire, exprimer mes ressentis et essayer de faire passer par la plume justement des émotions et des sensations, des envies et une vision de la vie, quoi. Voilà. Et donc Tim Kuna, oui, c'est la rencontre avec soi, les autres et l'univers tout entier. On commence par soi et en se rencontrant soi-même, quelque chose, moi en tout cas, j'ai l'impression que quelque chose me demande de l'exprimer et de le raconter. Et je le fais, parce que c'est ma responsabilité quelque part. La responsabilité de tout être, d'exprimer ce qu'il est, ce qu'il a envie de faire et les talents qu'il pense pouvoir apporter au monde, quoi, parce qu'on apporte ça aux autres aussi. Il y a quelque chose de très personnel dans ma démarche, mais c'est propre à l'acte artistique, je pense. Il y a des actes artistiques qui vont se déguiser sous une forme d'altruisme, etc. Mais on en revient toujours aussi à soi, quoi. Picasso, quand il va peindre Guernica, bah, il exprime son propre malheur. Et c'est son malheur à lui qu'il exprime. Et c'est sa vision de ce malheur qu'il exprime. Et les gens, après, ils en font ce qu'ils veulent. Et pourtant, quand on voit l'œuvre, on dit, bon, bah, Picasso, le monde, il parle au monde et ça. Mais surtout, c'est lui, son malheur qu'il exprime, quoi.
C'est que quelque part, voilà, ce projet et cette création, c'est une démarche un peu thérapeutique de guérison intérieure.
Oui, c'est initialement, pleinement, un chemin de guérison. Un chemin pour aller mieux. Hein, et éclairé par un rêve qui devait me permettre d'aller mieux. Alors que retrouver l'enfant que j'avais été initialement, c'était un acte de guérison que je devais accomplir. Ça m'a pris 4 ans au final. Alors que je pensais que ça prendrait 6 mois, quoi. J'avais obtenu l'autorisation de l'école en juin 2020. Donc, c'était même pas 6 mois après avoir m'être lancé là-dedans. Et il y a eu le Covid, ça a été interrompu. Moi, après, je suis parti sur d'autres choses. Justement, j'ai commencé à écrire de la poésie à ce moment-là. Donc, j'ai un peu abandonné cette idée de film de guérison, quoi, de film thérapeutique. Et je suis parti sur la poésie. Donc, ça a été une sorte de contretemps, mais qui m'a... que j'ai utilisé pour déployer d'autres choses de mon univers, quoi. Et cette poésie aussi, une poésie de guérison. Essayer de trouver des réponses aux petits malheurs ou aux grands malheurs et en faire quelque chose de joyeux, c'est un peu le choix que j'ai essayé de faire. Regarder tout ça en face et arrêter de tourner en rond à l'intérieur en me disant « Oh là là, je suis une merde, j'arrive à rien, il m'est arrivé ça, voilà, j'étais tout seul et je serai toujours tout seul. » Oui, je suis un être assez solitaire, mais aussi on peut en faire quelque chose de beau, de la solitude. Je sais que je suis et pour toujours quelqu'un de plus solitaire que probablement d'autres, quoi, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui me pèse, moi, parce que j'aimerais bien être plus en société, plus... Et essayer d'utiliser ça pour... voilà.
Et alors, comment t'as construit donc les enfants sauvages, du coup, à quel moment tu t'es dit « je vais rassembler tous les poèmes, toutes les histoires, et je vais en faire un livre, et je vais l'auto-éditer »
Je ne sais pas à quel moment je me suis mis en tête de faire ce livre. C'est peut-être... dans la temporalité, je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'un jour... voyant le tas de poèmes et d'images que j'avais entre les mains et aussi le plaisir que certaines personnes me renvoyaient en me disant que ce qu'elles aimaient bien ce que je faisais, que peut-être ça serait bien que je fasse un livre. Et ça, il y a une forme d'influence aussi extérieure, d'encouragement extérieur qui m'ont dit, fais, peut-être ça serait bien que tu fasses ça, quoi. Et que tu concrétises aussi. Et moi, je me suis dit que oui, effectivement, ça faisait 2-3 ans que je me trimballais dans la vie à raconter des choses, mais peut-être c'est bien aussi d'ancrer ça dans une forme d'objet, quoi. De concrétiser un chemin où une parole serait rassemblée, quoi, quelle que soit la forme de la parole. Mais voilà, faire quelque chose de concret aussi, moi, pour pouvoir passer à autre chose, parce que j'ai vécu ça un peu comme la fin d'un cycle, ce livre. Écrire ce livre me permettait, je pense, dans ma perspective, de refermer ce cycle, bah là, qui du coup s'avère être un cycle de 4 ans. Voilà, refermer ce cycle pour passer à autre chose. Et en même temps que ce livre a été terminé et est paru, j'ai eu l'autorisation de l'école de retourner me chercher. Donc je trouve que y a une... voilà, ça m'aide à m'appuyer sur quelque chose. C'est comme un pilier maintenant. Ce livre dans la vie. Ouais. Et à quel moment, ben voilà, c'est aussi à un moment de... J'avais perdu toutes mes affaires aussi, parce que depuis quelque temps, je jouais un petit spectacle de poésie. Et alors que j'allais le jouer à Grenoble, j'ai perdu toutes mes affaires. Ça a été volé dans la soute à bagages, quoi. Dans la soute à bagages du bus à Nîmes. Tout a disparu. Je me suis réveillé, parce que je dormais, j'étais très fatigué. Je me suis réveillé à Grenoble. Plus de valises. Plus d'instruments, plus d'accessoires, plus de tambours. J'avais plein de petits objets comme ça que j'avais récoltés, qui avaient disparu. Et je me suis retrouvé, du coup, sans rien, sans spectacle. Voilà. Et peut-être que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, t'as plus que ça à faire, en fait. Fais un livre, et t'as plus que ça à faire. T'as plus de spectacle. Il me restait quelques caméras. Et donc, j'ai continué un peu à filmer, même si j'ai mis ça aussi entre parenthèses. Voilà, mais c'est là que je me suis dit, bon, il te reste des caméras et ta plume, quoi.
Donc c'est un marqueur pour le début et la fin d'un cycle, en fait, c'est ça que tu dis. Et alors du coup, c'est vrai que ça parle donc de toi, ça parle d'amour, de rêve, beaucoup d'amour aussi, de rêve, de signes. Aussi tu parles de l'ours à un moment donné, qui est présent. Et quelque part, il y a un peu, il y a un peu une histoire aussi, ouais, de mort et de renaissance, c'est ce que j'avais retenu. Est-ce que peut-être en termes d'amour, voilà, quelle est ta vision de l'amour, et peut-être nous partager un de tes poèmes. Voilà, tu parlais effectivement au début de l'amour, comment s'aimer soi-même. Tu t'aimais pas forcément, et que là, il y a une reconquête de soi, en fait, de son enfant intérieur. Voilà, nous partager un petit peu ton sentiment de l'amour maintenant, du coup, après ce cycle.
Ouais, il y a des mots. Aujourd'hui, je pourrais dire que aimer, c'est être heureux que quelque chose existe. Est-ce que je suis heureux d'exister ? Oui, alors je m'aime. Est-ce que je suis heureux que toi tu existes ? Oui, alors je t'aime, voilà. Et je pense que ça peut s'arrêter là. Et après, peut-être que ça peut être aussi... aimer, ce serait la capacité à donner sans attendre et recevoir sans se sentir obligé de rendre, etc. Mais que quelque chose se passe, un flux d'énergie, un flux d'émotions, un flux de bonnes intentions aussi, un flux de bonnes intentions les uns envers les autres, etc. Après, l'amour, on va dire l'amour amoureux, ça c'est quelque chose, je pense que c'est impossible. Enfin, moi, j'ai peut-être ma définition, mais je ne sais pas, c'est trop compliqué encore pour moi, ça. je lis un poème d'amour, c'est ça que... Un jour te reverrai. Mais ça, c'est un poème d'amour qui me semble le plus universel. Quand j'approche de toi, oh que la lumière brille, et chassant les nuages sur la chaussée mouillée, par de ces mille couleurs une œuvre indélébile qui dit qu'après l'orage règne la liberté. Un jour te reverrai. Ah, quand je pense à toi dans le plein de ma vie, plongé dans ta mémoire grande ouverte à jamais. Désormais je rigole, désormais je souris. De mes errances folles, je commence à t'aimer. Quand je parle de toi, le long du chemin rouge, dans les jaunes prairies, dans les vertes forêts, les feuilles et les herbes et tous les arbres bougent, et l'eau de la lagune dessine ton reflet. Un jour te reverrai. Quand je viendrai en toi, enfin devenu homme, au milieu des souvenirs, au milieu du passé, nous changerons nos plaies et tous nos hématomes, en grandes et belles plumes qui nous feront voler. Un jour te reverrai, un jour te reverrai.
Je vois que tu fermes les yeux et que tu connais quasiment par cœur ce poème. Quand en fait tu les écris, ça sort d'une traite, comment ça se passe? C'est tu reviens, comment ça se passe l'écriture pour toi?
Ça dépend. Parfois le poème vient tout seul d'un coup. Parfois je suis obligé de le retravailler, surtout quand plus ils sont longs, plus il y a besoin de les retravailler. J'ai l'impression que c'est normal, quoi. Il y a de plus en plus de mots, plus en plus de phrases et de narration, quoi. Et ensuite, j'ai à cœur de les apprendre et de les ressentir sans avoir besoin de les lire, même si je me rends compte, en fait, depuis que j'ai reçu ce livre imprimé, que le fait que ce soit posé à l'écrit, comme ça, et devant moi à l'écrit, le rapport, en fait, au texte change. Ça donne une nouvelle texture au texte de l'avoir sous les yeux et de le lire, quoi. Parce que moi, jusqu'à présent, en fait, avant, je les récite tous, quoi. Enfin, j'ai à cœur de les apprendre et de les connaître. Voilà, c'est important pour moi de pouvoir les dire où je me trouve, quel que soit l'endroit où je me trouve. Même pour moi, parfois dans ma solitude, je me dis des poèmes que j'ai écrits ou peut-être parfois des poèmes d'autres aussi parce que ça me fait du bien, ça me redonne de l'énergie.
Sifflement dans le vent, brume d'aube crépuscule, accroché par le flanc, rouge saignement minuscule. Provenance inconnue, tête haute, regard posé sur les couleurs ingénues d'une rose au parfum relevé. Brume d'aube crépuscule, rouge saignement minuscule. Avancez, profitez au soleil du jour qui vient, du bonheur d'exister, ni de mal et non ni de bien. Beauté blanche, traversante, pleine de peines et de joie, mélopées douces et chantant de cœur affirmant la voix. Brume d'aube crépuscule, rouge saignement minuscule. Rejoindre une petite branche discrètement volatile, et du lundi au dimanche dans ce rêve versatile. Survol des calmes méandres aux tranquilles en miroir, voltige au-dessus des cendres des grands brûlis de l'histoire. Brume d'aube crépuscule, rouge saignement minuscule. Aux blanches beautés blessées d'une épine au flanc piqué, se laisse rêver et planer, non rien ne peut l'arrêter. Aux blanches beautés blessées d'une épine au flanc piqué, se laisse rêver et planer, non rien ne peut l'arrêter. 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 Un oiseau chante près du macadam, mélodies, illusions. Bonjour monsieur, bonjour madame, colorés oraisons. Il nous emmènerait dans son beau vol plané, il nous emmènerait sur son dos emplumé. Petite poésie volatile enveloppée de tendresse, milliers de notes fragiles qui sous les cheveux nous caressent. Par anges ou démons, par abîmes aimants, du galbe des collines, des méandres des rivières, des prairies enjôleuses, des forêts de mystère, aux falaises rageuses du bout des Finistères. Quand voyages et émotions, vous faites le tour de la terre. Quand voyages et émotions, vous faites le tour de la terre. Quand voyages et émotions, vous faites le tour de la terre.
Alors, Kurmi, ça veut dire aussi arc-en-ciel. Et du coup, il y a un peu une trame aussi des couleurs de l'arc-en-ciel, ou des couleurs, tout simplement, dans ce livre. Est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire finalement à quoi, quelle couleur représente quoi pour toi?
Ça, c'est une question que j'ai commencé à me poser quand il y a quelques temps, justement, il y a 3 ans, enfin, au tout début de mon chemin, là, de ce chemin de retrouvailles. J'ai décidé de me réconcilier avec mon prénom parce que Kurmi faisait partie aussi des obstacles à mon. Kurmi, c'est un prénom qui a été dur à porter. Souvent, les prénoms étrangers, déjà, c'est pas forcément facile à porter en France. Et en plus, le mien, qui ne se prononce pas comme il s'écrit, qui aussi est sujet à jeux de mots, moqueries, tu vois, Kurmi la fourmi, gourmet 3 étoiles. Il y a eu plein de petits jeux de mots comme ça tout au long du parcours qui ont fini par me dire, putain, ce prénom, il est relou, quoi. Et quand je suis arrivé à l'usine, parce que je bossais à l'usine, avant de commencer tout ça, je bossais à l'usine. Et quand je suis arrivé à l'usine, j'ai dit, je vais prendre mon 3e prénom, qui est Santiago. C'est beaucoup plus simple à porter, tout le monde va le comprendre. Parce que si je dis que je m'appelle Kurmi, ils ne vont rien comprendre. Ils vont tous m'appeler différemment. Et donc là, ouais, effectivement, un jour, je me suis dit, bon, allez, Kurmi, on va essayer de porter ce nom et de l'habiter. Arc-en-ciel, ouais, c'est pas facile, pas évident. En plus, quelque part, rapidement, je me suis dit, mais c'est vrai que l'arc-en-ciel, c'est un truc qui n'existe pas vraiment. Qui apparaît mais qui disparaît, qui s'ancre jamais vraiment dans le sol, qui est juste une sorte d'illusion, quoi. Et quelque part, ouais, j'ai l'impression que ça me correspondait plutôt, quoi. Mais est-ce que c'est que ça ? Voilà, c'est aussi plein de couleurs, un mélange de lumière et de pluie. Et la poésie, c'est ça aussi. C'est un mélange de pluie, de lumière et de souvenirs et de matière, de graines, justement, des graines du présent aussi, quoi. Et ensuite, bah, les couleurs sont venues petit à petit sur le chemin me donner leur sens pour moi, à ma vérité. Et ça va changeant, comme l'arc-en-ciel aussi, le sens des couleurs. C'est très, très changeant. À un instant, on va avoir... Après, bon, le violet, je vais plutôt l'associer, moi, au crépuscule et à la mort, à la fin du cycle. Voilà, la mort, souvent, le violet, pour moi, c'est devenu un peu ça, quoi. Et ensuite, on passe au rouge. Le rouge qui est en haut de l'arc et qui est plutôt une couleur d'amour, de force et surtout d'amour évidemment quoi et la force des origines aussi, l'amour des origines. Voilà, après je peux faire la déclinaison mais bon là le orange pour moi je l'assimile pas mal au courage. Voilà, il y a quelque chose de courageux ouais, pour moi dans le orange. Le jaune porte une tristesse aussi. Le, le vert, la protection, comme le feuillage des plantes, protège un peu l'être qui est en dessous. Mais s'il y a trop de feuillage, on se trouve dans l'obscurité. Donc le vert ne doit pas être trop non plus abondant. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Il y a des équilibres toujours. Quoi. Turquoise, c'est la couleur de l'enfance. C'est pour ça que mon livre, ce premier livre est turquoise, et j'espère que les autres seront d'autres couleurs aussi. Quoi. Voilà, l'indigo, la couleur des origines, de la rivière qui descend de la montagne, qui va s'écouler, qui va rejoindre l'infini exutoire de l'océan. Chacun a sa propre rivière, ses propres origines, et si les choses se passent bien, on se retrouve tous dans le même océan de la vie. Quoi. Donc les origines sont brassées à l'intérieur de la mer et des océans. Voilà. Puis après, on retombe sur le violet, la mort, mais qui annonce aussi le rouge qui repart. Ça repart, c'est infini, en fait. Donc tout ça va comme ça en se succédant ou en se mélangeant. Et si on le brasse vraiment, ça devient blanc, quoi. Ça redevient blanc. Et le blanc, pour moi, c'est la couleur de la poésie.
Ouais. Et pourquoi tu as appelé ton ouvrage « Les enfants sauvages » et pas « L'enfant sauvage » ?
Mais je l'ai appelé enfant sauvage.
Ouais, c'est vrai.
Donc il y a pas l'article lait, mais c'est vrai que j'ai mis un petit S après enfant et un petit S après sauvage, mais parce que j'arrivais pas à trancher entre le singulier et le pluriel, et que j'avais envie de parler d'une forme de solitude, mais aussi d'une aspiration à quelque chose de collectif. Moi j'ai cette nostalgie, en tout cas cet amour. De la folie des enfants, quoi. J'aime voir des groupes d'enfants faire n'importe quoi, jouer, crapahuter, courir, crier, sauter, laisser libre cours à leur intuition, etc. Et c'est une somme de solitude. Et on s'en rend compte après quand on s'éloigne d'eux, quand on les perd. Parce que moi, je les ai perdus, tous mes amis d'enfance. Je suis devenu un être plus solitaire. Et pourtant, je reste habité de tout ce peuple auquel j'appartenais, parce qu'on formait un peuple quand on était enfant. On a été éclaté à la fin de l'école primaire, comme si on n'était rien, mais on était quelque chose. Et donc, c'est une solitude qui parle aussi au collectif auquel elle appartenait, à ce peuple, et que je n'ai jamais oublié et que je n'oublierai jamais. Mais que quelque part, j'aurais rêvé de voir perpétuer, peut-être que j'aurais rêvé qu'on reste toujours la même société. Mais ça, c'est une illusion. Même en retournant vers eux, je pensais reconstituer quelque chose au début. Et en fait, je me rends compte que chacun a fait son propre chemin, chacun a exploré sa propre solitude d'une certaine manière, et puis beaucoup sont d'accord avec ça. Enfin, ils ne tiennent pas particulièrement à reconstituer. Moi, j'avais quelque chose comme ça, d'une forme de folie, de reconstitution, qui est peut-être aussi une reconstruction de l'exil de mon père, quoi. Mon père est exilé de force, il n'a pas choisi de partir de son pays. Et je crois que j'ai reconstruit aussi une forme de sentiment d'exil qui a été que j'ai soigné aussi ces quelques dernières années. En ouvrant ma parole aussi auprès de mes parents, de mon père, et puis en parlant de l'exil de l'enfant, de l'enfance. L'exil de l'enfance ressemble à l'exil d'un adulte qui se fait... qui se fait dégager de son pays pour une raison ou une autre et qui n'y retourne jamais, quoi.
Pourquoi il a été, il a dû partir de force de son pays ?
Mais il était, il était bolivien, comme je disais tout à l'heure. En Bolivie, il y a eu un coup d'état militaire et mon père était assez politisé. C'était pas non plus un grand militant, mais il était, c'était quelqu'un qui avait une forme d'influence dans le quartier où il vivait. Et c'était mal vu par le nouveau régime militaire et fasciste, quoi, de l'époque. Donc il s'est fait emprisonner, il s'est fait casser la gueule, il a même disparu quelque part à un moment. Et quand il est revenu, sa mère lui a dit qu'il fallait qu'il parte, donc il allait se réfugier déjà dans un autre pays, qui était le Chili, et qui était à l'époque une république socialiste, quoi, la république de Salvador Allende. Et là, il y a eu un nouveau coup d'état militaire, en fait, le coup d'état de Pinochet, du général Pinochet. Et ils ont pourchassé, quand ils ont renversé Allende, ils ont pourchassé tous les étrangers qui se trouvaient au Chili, parce que s'ils étaient au Chili, c'est que forcément, ils étaient, c'était des gauchistes, politisés, quoi. Et donc, il s'est réfugié dans la première ambassade, après avoir vu des gens se faire massacrer dans les rues, des cerveaux sortir des boîtes crâniennes, etc. Donc, moi, il m'a raconté ça très tardivement. Et il y a beaucoup de choses qu'il n'avait jamais racontées non plus. Et qui sont très, 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 très difficiles à raconter. Mais le problème, c'est que les adultes qui partent comme ça dans des conditions très violentes, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas exprimer parce que peut-être qu'ils ont peur de mourir en les exprimant. Il y a une peur comme ça de la mort, une peur de... Et ça, on le ressent quand on est enfant. Enfin, moi, en tant que fils de cet homme, j'ai ressenti une violence non dite qui a été très lourde à porter quelque part. Et ensuite, on travaille en tant qu'enfant, même à l'exil de nos propres parents. Et de génération en génération, des choses comme ça se répercutent. Et à un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Donc peut-être que moi, j'avais pas réussi jusqu'à présent, mais là, maintenant, avec mon propre travail sur mon propre exil, et puis l'expression de tout ça, ouais, c'est... On libère aussi des énergies très, très violentes, cadenassées.
Ouais, en fait, quelque part... Cet exil était engrammé dans ta mémoire sans avoir les mots. Et quelque part, tu poses les mots maintenant et depuis quelques années parce que c'était pas forcément exprimé. Tout était dans le corps, dans le non-dit, dans le vécu. Mais pourtant, c'était transmis à son fils. Et j'en viens du coup à l'exil, la liberté. Voilà. Tu parles aussi beaucoup de liberté dans ton livre, cette insatiable liberté. Qu'est-ce que c'est d'être un homme libre quelque part, ouais.
Il n'y a pas longtemps, c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis posé un moment quand j'ai commencé, quand je suis parti sur ce chemin, je me suis dit bon, moi j'ai besoin d'être libre maintenant. J'en ai marre de mes prisons, j'en ai marre. Donc je vais tout libérer. Mais quand on libère toutes les énergies et qu'on ne fait pas attention aux conséquences. On arrive vite à des choses qui sont détruites. On arrive vite à la destruction, en fait. Et donc, la liberté sans conscience amène à la destruction. Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'ai expérimenté aussi ces dernières années, parce que je me suis cassé la gueule un certain nombre de fois aussi avec cette lubie de la liberté, quoi. Et un jour, sur la place de la République, à Paris, j'ai vu un beau drapeau, qui est le drapeau amazir, le drapeau des Berbères, là,
que je ne connaissais pas à ce moment-là, et qui était brandi là sur cette place au moment du grand mouvement populaire qui a soulevé l'Algérie il y a quelques années maintenant, et qui continue encore à faire vibrer ses ondes. J'ai rencontré ce drapeau, l'Amazir, donc bleu, vert, jaune, donc le bleu de l'océan, le vert de la côte fertile, le jaune du désert, le désert de nos solitudes, et au-dessus de tout ça plane un être, enfin une lettre qui est Yaz, et que eux appellent l'être libre. Mais c'est l'être libre et noble, Yaz. C'est-à-dire que le mot libre et le mot noble sont synonymes dans la culture amazigh, dans la culture des Berbères. Et je crois qu'on ne peut pas être libre sans être noble. Noble avec ses intentions, noble avec ses pensées à l'égard de soi-même, à l'égard des autres. Et seulement par là, moi, en tout cas, je pense que mon chemin de liberté, il passe aussi par la noblesse d'être, essayer d'avoir toujours des bonnes intentions, essayer de ne pas se laisser non plus déborder par ses aspirations, ses pulsions, aussi primitives parfois, ou déformées, aliénées, et toujours poser sa conscience sur ce qu'on s'apprête à faire ou sur ce qu'on va faire, même si c'est le chemin de conscience, il est infini. À chaque fois que je pose ma conscience sur quelque chose, je me rends compte qu'il y avait d'autres noirceurs inconscientes. L'inconscience va avec la noirceur, donc la liberté reste un cap, à mon avis, difficile à atteindre. En tout cas, total, c'est très compliqué. Et c'est un combat aussi de rechercher la liberté. Et dans le combat, on n'est pas libre. Donc quelque part, aspirer la liberté et se battre pour sa liberté, c'est d'une certaine manière renoncer à l'avoir totalement, à être totalement libre. On peut pas être totalement libre. Mais être conscient de ça, voilà, et se dire, je peux pas être totalement libre, mais du coup, j'arrête de me prendre la tête avec ça aussi, d'en faire une lubie, d'en faire un... Aujourd'hui, je trouve que le mot liberté, il est associé à beaucoup de choses qui, moi, me paraissent totalement destructrices, quoi, et notamment la liberté économique, voilà. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc on enfreint la liberté quand on pose des normes, quand on pose des lois sur certaines choses. Mais peut-être que pour l'intérêt collectif et pour la liberté des autres, voilà, on en revient toujours à ça, quoi.
Quelque part, tu as gardé une forme de combat, celle de ton père, d'une certaine manière, par rapport à la société, puisque tu as quand même une vision assez critique de la société. Après, on l'a tous, hein, c'est pas une critique que de dire ça. Mais voilà, quelle est ta vision de la société et pourquoi, effectivement, ces difficultés, des fois, d'être dans le système qui emprisonne. Alors, on a nos propres barrières liées à nos mémoires, à nos traumatismes, etc. Mais il y a aussi les barrières et les limites que nous donne la société. Alors, est-ce qu'on s'y intègre ou pas? Et est-ce qu'on reste un enfant sauvage ou pas? Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à tout ça?
Ouais, déjà, on est tous quand même influencés par la vision du monde, de ses propres parents et du milieu dans lequel on a grandi. On est influencé par notre éducation. Et mes parents, ils ne se sont pas rencontrés pour rien, ils ne se sont pas mis ensemble pour rien. Je pense que, mais si on parle de positionnement politique, parce que là, la vie de la société, c'est la politique, c'est aussi ma mère, quoi. Ma mère, j'ai vécu avec elle. J'ai vécu avec elle, mais pas avec mon père. Donc elle, il y a une infusion lente aussi, mais d'une grande douceur aussi. Et c'est la générosité, quoi. Je pense que les deux m'ont parlé de générosité et d'attention à l'autre. Voilà. Et ça m'a influencé. J'ai aimé ça. J'ai aimé l'idée qu'il fallait faire attention aux autres. Et ça m'a toujours accompagné, quoi, depuis tout petit, quoi. J'ai toujours eu du mal avec la souffrance des autres. Et voilà. Donc, je pense que c'est la seule chose qui, quelque part, façonne... C'est la chose qui façonne principalement ma vision de la société. On ne peut pas être heureux entouré de gens qui souffrent. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et pour moi, cette question, en fait, elle appelle des centaines de réponses, une infinité de réponses. Quelles sont, on peut en discuter, mais... que quelqu'un puisse se sentir heureux et bien et tranquille alors qu'il y a tant de souffrance autour de nous, moi, ça ne me paraît pas possible. Et je pense que ça n'est pas possible.
Je pense que les gens qui pensent être heureux parce qu'ils ont, ils sont dans le bien matériel et égoïstes, etc., ils ne sont pas heureux. Je ne pense pas qu'ils soient heureux. Je pense que ça me paraît pas possible. Il y a un truc, un moment qui finit par... peut-être au dernier souffle.
Du coup, ça veut dire qu'il y a une forme de révolte, en fait, par rapport voilà, à tous ces gens qui souffrent, quand tu les vois ou quand tu regardes les infos, quand tu vois toutes les manifestations qu'il peut y avoir. C'est une révolte par rapport aux gens qui sont plus dans la misère, ou c'est une révolte aussi en lien avec les gens qui sont effectivement dans ce matérialisme et qui essayent de voilà, de gagner leurs sous et de gérer ça, et pourtant qui souffrent. Hein, voilà, dans quel sens on peut voir la révolte, en fait, et la souffrance?
C'est déjà compliqué de faire sa propre révolution interne. Et je pense qu'il faut commencer par là. Hein. La révolte intérieure, qu'est-ce qu'à l'intérieur de nous a pris le pouvoir et nous empêche de vraiment exprimer la beauté et l'amour de la vie, quoi. Parce que je disais tout à l'heure que voilà, aimer c'est être heureux que quelque chose existe. Mais à partir du moment où toi, tu es heureux d'exister, juste ton existence, en fait, te suffit, bah alors tu n'as plus besoin d'amasser. Et quelque part, moi, je ne ressens pas de révolte par rapport au comportement ou au positionnement des autres. Voilà, je pense qu'ils sont malheureux. Moi, je vois beaucoup de gens malheureux, surtout dans les classes. Ils s'emprisonnent. À la fin, ils finissent par ne plus voir personne, être complètement en dehors du monde, en dehors d'une réalité qu'ils ne veulent pas voir. Et à mon avis, à l'intérieur d'eux, quelque chose se révolte toujours au quotidien. Moi, je l'ai vécu à ma petite échelle. Voilà, quand on finit par s'emprisonner, par être dans une tour de plus en plus exiguë, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit ça va pas. Là, il y a un truc qui va pas. Et je suis certain que ces gens, que ce qui fait aujourd'hui le déséquilibre de nos sociétés, qui est quand même une sorte de pouvoir, de micro-pouvoir, d'oligarchie. Ouais, il y a une oligarchie claire aujourd'hui dans notre société. Cette oligarchie est malheureuse. Et qu'elle se révolte, elle. Parce que personne ne peut aller les chercher. Et eux, s'ils ne se révoltent pas à l'intérieur d'eux-mêmes, les choses iront encore plus loin. Et peut-être que ça ira beaucoup plus loin. Mais même le feu qui est semé partout, les guerres, etc. Mais c'est quoi, en fait? C'est des révoltes intérieures qui ne se regardent pas en face. Et donc, parce que je ne vais pas bien, je vais aller bombarder telle ou telle population. Mais c'est parce que moi, je ne vais pas bien. Je ne peux pas aller... Personne ne peut aller bien en faisant ça. Ces gens-là vont mal. Ils vont mal. Voilà. Donc, qui continuent sur leur chemin de malheur en entraînant tout le monde, oui. Ça pourrait me révolter. Mais en fait, je ne sais pas. Je ne ressens pas vraiment plus de révolte que ça, quoi. Ça me fait mal. Ça me fait souffrir. Mais j'en suis pas au sentiment de révolte. Sinon, si je ressentais un sentiment de révolte, je serais déjà dans le maquis, en fait.
Est-ce que tu peux parler, en fait, de ta vision de la nature, qui est quand même une source d'inspiration assez importante pour toi?
La nature, j'y suis souvent. Je suis très souvent, j'ai l'impression d'y être chez moi, quoi, en fait. Quelque part, quand je reviens, par exemple, en ville, je suis un peu moins chez moi. Hein. Donc, c'est ma maison, la nature. Même si elle est plus hostile, plus compliquée en termes de conditions, etc. Y passer du temps, c'est un dialogue. Un dialogue comme on peut dialoguer avec n'importe quel autre être ou n'importe quelle autre chose. Et je crois que c'est aussi l'idée d'amour. L'amour, ça passe par le dialogue. Moi, je ressens, ma vérité, c'est que quand je suis dans la nature, bah, je dialogue avec ce qu'il y a autour de moi. Et ce qu'il y a autour de moi me parle et me voilà, et on échange et on discute, on philosophe, on refait le monde... Voilà, et j'ai un amour incommensurable pour ces espaces-là, parce que je ressens leur présence et leur accompagnement. Voilà. Donc je pense que ça fait aussi sa partie de ma vision du monde et de l'importance qu'il y a à protéger ça, à l'aimer, à dialoguer avec et à arrêter de le voir comme
juste une matière première. Aujourd'hui, la nature est réduite à matière première, l'eau, ressources. On est ça. On est la nature c'est nous, on en vient. Celui qui pense s'extraire de ça, c'est la même chose, il se perd et il n'est pas dans l'amour de lui-même, quoi. Il y a quelque chose comme ça que je trouve assez fou, en fait. C'est la terre qui nous a engendrés, c'est notre mère. Dans beaucoup de cosmovision, on parle de la terre-mère, et les hommes n'ont de cesse de la détruire, de la dénigrer, de la mépriser, et certains, voilà, d'en avoir aucune considération. Et ça, c'est le rapport à la maternité, à nos origines féminines. On cherche le ciel, on cherche l'espace, on veut aller chercher le soleil. Et avec des fusées comme ça, qui sont verticales, qui ressemblent aussi à des phallus, etc. Il y a quelque chose de très, très masculin et très virilement destructeur, je trouve, dans la vision que nos sociétés ont aujourd'hui. Je vois des agriculteurs qui travaillent la terre sans aucun amour. Mais ce n'est pas possible, en fait. Elle nous donne tout. Elle nous a tout donné. Elle nous a donné la vie. Voilà. Et ça, c'est chaque jour et chaque seconde, je l'ai en moi, quoi. Et après, le faire vivre, discuter de tout ça avec les gens, c'est compliqué. Parce que c'est des cosmovisions qui s'entrechoquent. Voilà. Et on rentre rapidement dans le conflit d'idées, dans quelque chose comme ça de conflictuel, parce que je ne comprends pas, moi, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut avoir aussi peu de considération pour la nature. Et d'autres ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut être comme ça, accorder autant d'importance entre guillemets, aux petites fleurs, aux petits oiseaux, aux petites grenouilles, autant d'importance à tout ça. Voilà, donc il y a une sorte comme ça de scission quelque part, je sais pas, philosophique, enfin voilà, à l'intérieur même de nos sociétés. Et je sais pas si on est si nombreux que ça, voilà. On est un peu minoritaire, je pense, à ressentir ça pour la nature. Et ça, c'est... Si on veut que les choses avancent, enfin, moi, personnellement, si je veux que les choses aillent dans mon sens... Je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux, voilà, à accorder l'écoute à la nature et à comprendre qu'elle nous parle et qu'elle nous dit des choses. La connexion à la nature, elle est indispensable. Et chacun, si les gens s'ouvrent de plus en plus à ça, alors...
Et pour revenir du coup à Tinkuna, enfant sauvage, voilà, quelle est la suite? Et c'est vrai que tu as des projets aussi d'art vivant. Voilà, tu fais un spectacle que tu te représentes. Enfin voilà, peut-être nous parler, ouais, de Tinkuna dans les projections, dans les rêves à venir, et de ce spectacle que tu fais depuis un moment déjà.
Oui, j'essaye de raconter le chemin poétique qui est inscrit à l'intérieur du livre, avec beaucoup de poèmes et vraiment vu que j'ai perdu tous mes accessoires à un moment. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a dit, bon, fais très simple, quoi. Donc, arrête de te cacher aussi derrière des guitares, enfin des charanguitos, arrête de te cacher derrière des tambours, derrière des déguisements, derrière des chapeaux, des trucs. Je me déguise encore, moi, hein, tu vois, mais arrive avec juste toi, voilà, toi. Voilà, et donc, c'est ça, moi, me présenter au monde avec moi.
Tu as fait une chanson qui s'appelle « Arbre citoyen ». Tu pourrais nous la faire ou... pour finir, là ou pas? Ouais.
Allons enfants, je le chante avec l'air de Martinette. Allons enfants de la prairie, le jour de voir est arrivé. Contre nous une haie jolie, et des fleurs s'ouvrant par milliers, et des fleurs s'ouvrant par milliers. Entendez-vous dans les campagnes le vent du printemps que voilà? Il vient jusque dans nos bras nous parler de la vie de cocagne. Aux arbres citoyens, dormez dans les buissons, marchons, courons, que l'aventure abreuve nos sillons. Tatatan.
Bon, super, merci beaucoup Kurmil Yanke, auto-éditeur du livre Enfant sauvage. Où est-ce qu'on peut le trouver, ton livre?
Je l'amène avec moi, Déjà, on peut le trouver là où je me trouve souvent. Et sinon, sur Internet, il y a un site qui s'appelle Hello Asso et qui héberge mon association parce que j'ai une petite association et on peut le commander sur ce site Hello Asso Tinkuna. Ensuite, je ne l'ai pas amené dans les librairies, je ne l'ai pas inscrit sur les registres pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça se fera, mais pour l'instant, non. Donc, c'est vraiment en vente directe, quoi, pour l'instant. Au CLAP aussi, au CLAP de l'ODEV. Il est trouvable aussi au CLAP de l'ODEV. Ça a été compliqué, j'ai l'impression, pour moi, mais j'espère qu'on leur sortira des choses.
Les nouveaux sauvages. Une émission présentée par Marie Laloume.